Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Le vacher courageux. Il était une fois un riche seigneur qui possédait une montagne. Il habitait la plus grande maison d'un village situé au fond d'une vallée. On disait de lui qu'il était solitaire et peu bavard. Depuis quelques années, on racontait aussi qu'il s'était marié, que sa femme était très belle, mais personne ne l'avait jamais vu. À côté de sa maison, sa ferme et son troupeau de vaches. Au début de l'été, le troupeau était conduit dans les hauteurs de sa montagne pour y pâturer toute la saison. C'était le temps de l'estive. Mais depuis plusieurs années, une malédiction semblait s'être attachée à sa montagne. Le matin du retour de l'estive, à l'aube, le vacher était retrouvé sur sa paillasse mort. La nouvelle s'était répandue dans la vallée et dans toutes les vallées environnantes. Alors, d'année en année, le seigneur peinait un peu plus pour trouver un vacher. Ce matin-là, au lever du jour, le seigneur est sur le pas de sa porte. C'est la fin du mois de mai, toujours pas de vacher. Il est soucieux. À l'entrée dans la cour, il voit un homme apparaître. Il avance dans sa direction. Il est jeune. Il porte des vêtements de toile grise qui semblent avoir beaucoup travaillé. Son chapeau laisse échapper des cheveux couleur de paille. En travers du torse, il porte une besace. Et à sa ceinture, un sabre. L'homme s'arrête et fait face au seigneur. « Bonjour, seigneur. J'ai entendu dire que vous recherchiez un vacher. Je suis votre homme. » Le seigneur plonge son regard dans les yeux de l'homme et ce qu'il y voit... « C'est d'accord, tu commences le travail maintenant et demain tu pars en estive. » Le lendemain, à l'aube, garçons de ferme et bêtes se mettent en route, menés par le vacher. Ils arrivent à l'alpage à la fin de l'après-midi. Les hommes installent leur campement dans un chalet fait de pierres et de mélèzes. Les vaches broutent aux alentours. Les semaines, les mois passent, la saison se termine. Demain, ils vont redescendre dans la vallée. C'est la nuit. Le vacher est endormi sur sa paillasse. Dans son sommeil, à cet instant léger, il perçoit un mouvement de l'air, comme une présence. Il ouvre les yeux. Sur la poutre, au-dessus de lui, dans un rayon de lune, il voit une chatte. Son poil est long, blanc, elle ronronne, elle avance en ondulant. Il devine qu'elle va se jeter sur lui. Alors, sans bruit, il laisse glisser sa main en direction du sol. Il trouve son sabre, saisit la poignée et d'un geste vif, il tranche une des pattes de la chatte. Elle s'enfuit en miaulant de douleur. Au petit matin, c'est le départ. Ils arrivent à la ferme à la fin de la journée. Les vaches sont conduites à leur enclos. Le vacher se dirige vers la maison du seigneur. Il frappe à la porte. Le seigneur lui ouvre. « Bonjour, seigneur, nous voilà de retour. Je vous ai ramené tous vos hommes et toutes vos bêtes. » Mais que se passe-t-il, seigneur? Vous ne dites rien? Vous n'êtes pas satisfait? Entre et suis-moi. » Le seigneur se retourne et avance dans la grande cuisine, suivi par le vacher. Au fond de la salle, il s'arrête à côté d'une porte ouverte. D'un geste, il invite le vacher à regarder à l'intérieur de la pièce. C'est une chambre. « Ma femme, dit le Seigneur. » Sur le lit recouvert d'un drap blanc, une femme est allongée. Elle est très belle. Elle porte une longue chemise blanche. Ses cheveux longs, blonds, presque blancs, ondulent sur ses flancs. Un de ses bras a été tranché au-dessus du poignet. Sur le seuil de la chambre, le vacher se fige. Cette nuit, dans le rayon de lune, la chatte.
Le bonhomme misère. Dans le pays de chez moi, on ne dit pas « manger une pomme ». Non, on dit « croquer une poume ». Et avec les poumes, on boit du bon cidre. Et avec le cidre, on mange des crêpes bien sucrées. Mais dans le pays de chez moi, on dit des histoires comme celle-là. Il y avait dans le village un monsieur, un homme, qui était tellement pauvre qu'on l'appelait le bonhomme misère. Il avait bien un petit jardin, une petite maison, mais c'était tout. Dans son jardin, il y avait un pommier, un beau pommier qui donnait des belles pommes rouges, et c'était, au bonhomme, sa fierté. Un beau jour, qu'il était là, à regarder à la fenêtre de sa maison, il épluchait des légumes pour sa soupe, oh, une faillie soupe. Et sur le chara, en face de lui, il a vu arriver un paytou, un vagabond. Le vagabond, il a toqué à la porte. « Entre !» chiffait le bonhomme. Et le paytou, il est rentré, le vagabond. « Assieds-toi, tu vas manger la soupe avec moi. » « Pas de refus, qui dit le paytou. » Il s'est assis. Quand la soupe fut prête, le bonhomme lui dit « Assieds-toi maintenant et on va partager la soupe. » Il a versé la soupe dans les trous qui étaient dans la table. Eh oui, il n'avait que ça. Il avait fabriqué 2 cuillères. Ils ont commencé à manger. Et puis, le temps passe, mais à cette époque-là, on ne se parlait pas beaucoup. Il suffisait de se regarder pour se comprendre. Quand il avait fini sa soupe, le bonhomme a regardé le paytou. Le paytou a dit « Eh bonhomme, tu m'as offert la soupe. Tu étais gentil avec moi. Alors, fais un vœu. » Un vœu ? Pourquoi faire ? J'ai tout ce qu'il me faut, qui dit le bonhomme. Eh oui, mais dis quand même, cherche. Et le bonhomme, il a cherché, et puis il a dit, j'ai mon pommier, c'est ma richesse. Alors, si je pouvais empêcher les gens de monter à mon pommier pour prendre mes pommes, eh bien, ça serait mon vœu. Eh bien, c'est ça. C'est accompli. Et le paytou est parti. Quelques jours après, le bonhomme était parti chercher du bois pour faire son feu. Et il a entendu des gamins qui étaient grimpés à l'arbre et qui criaient et qui voulaient manger ses pommes. Alors il est arrivé, il a fait « Oh !» Et les gamins, ils ont été collés à l'arbre. Ils ne pouvaient plus bouger. Ils ont crié, crié. Et le bonhomme, il est rentré chez lui avec un petit sourire. Un moment après, il est ressorti, il a fait « Oh !» Et les gamins, Ils n'ont pas demandé leur reste. Ils sont partis en courant. Et quelques années plus tard, quand les jeunes enfants sont devenus grands et qu'ils se croisaient avec le bonhomme Misère, ils avaient chacun de leur côté un petit sourire. Et le temps a passé. Le bonhomme Misère était ce matin-là, assis sur son banc à prendre le soleil. Est arrivé un individu, un homme, avec un grand manteau noir et une faux sur le dos. C'était la mort. « Hé, bonhomme, je t'emmène !»« Ah oui, la mort, c'est d'accord, mais avant de partir, j'aimerais bien manger une pomme de mon pommier. Eh ben, prends-la !»« Ouais, mais la mort, si je suis là et si tu m'emmènes, c'est que je peux plus marcher. Tu peux pas la prendre pour moi ?» Et la mort, elle est grimpée à l'arbre pour prendre une pomme. Et le bonhomme Misère a fait « Ouh !» Et la mort, elle est restée collée. Elle a eu beau crier, hucher, qu'elle avait du travail partout dans le monde. Le bonhomme n'a pas cédé. Les mois, les années ont passé. Et la mort ne faisait plus son travail. Et le monde commençait à s'inquiéter. Surtout les jeunes. Les vieux leur disaient plus rien. Il leur apprenait plus rien du tout. Et les jeunes se révoltaient. Alors ils sont venus voir la mort, le bonhomme Misère, et « Hé, bonhomme, arrête tes bêtises. »« Ouais, bonhomme dit je veux bien, mais faut que j'aille voir la mort d'abord. » Il a regardé la mort, il lui a dit « Et la mort ?» Si tu me donnes du rabiot, combien ? 30 ans si tu veux, mais libère-moi ! Et le bonhomme, il a fait « Wow !» Et la mort est redescendue. Elle a recommencé son travail et le monde a recommencé à tourner, comme avant. Mais les 30 ans ont passé. Et ce jour-là, le bonhomme, il était allongé sur son lit. Il attendait. La mort est arrivée, avec sa faux et son grand manteau noir. Elle est rentrée dans la maison, elle a enveloppé le bonhomme Misère dans son manteau. Elle a emporté le bonhomme, mais la Misère, elle l'a laissé.
L'agneau noir. Dans ce pays, le roi avait une fille. Cette princesse ne riait jamais. Le roi en était désespéré. Il avait fait venir tous les médecins du royaume, en vain. Un jour, il fait proclamer qu'il offrira une grosse bourse d'or à celui qui réussira à la faire rire. La nouvelle arrive dans une maison où vivent trois frères. Ils sont très pauvres. « Voilà l'occasion de devenir riche !» s'écrie-t-il. Sans tarder, l'aîné, le plus bavard, prend le chemin en direction du château. Il avance d'un bon pas. Soudain, il entend un gémissement suivi d'un appel à l'aide. Ça provient du fossé. Il s'en approche. Au fond du trou, il voit une vieille. « Sors-moi de là, jeune homme !»« J'ai pas le temps, je file au château !» Arrivé au château, l'aîné des frères est conduit auprès de la princesse. Il lui raconte une histoire drôle. La princesse est immobile. Sur son visage, rien, pas même un sourire. Il s'en retourne chez lui. Le deuxième frère se met en route. C'est le plus agile des trois. Lui aussi, en chemin, il entend la vieille dans le fossé. Il ralentit à peine le pas. « Je suis pressé, je vais au château !» Au château, devant la princesse, il fait un numéro de pirouette et de grimace. La princesse, figée, aucun sourire. Il repart. C'est maintenant au tour du troisième frère, le plus sage. Il n'a rien préparé. En chemin, il entend la vieille. Il s'approche du fossé. « Sors-moi de là, jeune homme !» Il tend les mains, elle s'y agrippe, il la sort du trou. « Ah, merci, mon garçon. Dis-moi, où est-ce que tu vas comme ça ?»« Je vais au château, la vieille, pour faire rire la princesse. » Le roi a promis une récompense, une bourse d'or. « Bon, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. » « Tiens, mon garçon, regarde. Au fond du trou, il y a ma besace. Sors-la. » Le jeune homme remonte la besace. « Ouvre-la. Regarde cet agneau noir, là, tout tranquille. Je te l'offre pour te récompenser. Prends-le. Et surtout, ne t'en sépare jamais. » Le voilà reparti. Quand il arrive aux abords du château, c'est le soir. Trop tard pour voir la princesse. Il cherche un lit pour dormir. À l'auberge, tout est complet. Va demander au curé. Il habite la maison à côté de l'église. Il arrive devant la porte du curé. Il frappe. Le curé et sa gouvernante lui ouvrent. Il lui offre une chambre et pour son agneau, une place à l'écurie. Mais le jeune homme refuse de se séparer de son animal. Le curé et sa gouvernante sont surpris, mais bon, ils acceptent. Au petit matin, le curé se réveille. Il est intrigué. Il se lève et sans bruit, il va à la chambre du jeune homme. Le jeune homme est endormi, l'agneau noir dans ses bras. Le curé s'approche du lit. Il saisit l'oreille de l'agneau, qui se met aussitôt à bêler, et réveille le jeune homme. Le curé veut s'en aller, mais impossible. Sa main reste collée à l'oreille de l'agneau. Il crie au secours. La gouvernante se lève, vite, s'habille. Dans sa précipitation, elle déchire un pan de sa robe à l'angle de sa commode. Elle arrive dans la chambre du jeune homme. Elle voit le curé, prend son poignet, tire. Elle veut retirer sa main. Elle reste collée, elle aussi. Tous sortent de la chambre, puis de la maison. Ils traversent le jardin. En passant près du carré et des choux, la gouvernante arrache une feuille de chou et la plaque contre la déchirure de sa robe pour protéger sa pudeur. Ils sortent du jardin. Le jeune homme, l'agneau noir, le curé, la gouvernante, la feuille de chou. Sur le bord du chemin, trois chèvres. Gourmandes, elles se jettent sur la feuille de chou et restent collées. Plus loin, le boulanger est sur le pas de sa porte. « À l'aide, boulanger !» Le boulanger se précipite, saisit une épaule et reste collée. Plus loin encore, le forgeron est appelé au secours. Il saisit une ceinture et reste collé. Deux femmes bavardent sur le pas de leur porte. Elles veulent aider, saisissent un poignet, un bras et restent collées. Le jeune homme, l'agneau noir, le curé, la gouvernante, la feuille de chou, les trois chèvres, le boulanger, le forgeron, les deux femmes sortent du village. À l'entrée du pont, un aveugle et son chien. Le chien tire sur sa laisse, mordit une patte de chèvre. Il reste collé. Elle aveugle aussi. Quelle farandole, dites-moi! Le jeune homme, l'agneau noir, le curé, la gouvernante, la feuille de chou, les trois chèvres, le boulanger, le forgeron, les deux femmes, l'aveugle et son chien. Ils arrivent au château et entrent dans la grande cour. La princesse est assise à sa fenêtre. Elle voit arriver cet équipage agité et bruyant. Sans crier gare, le jeune homme s'arrête au milieu de la cour. Tous s'écroulent les uns sur les autres dans un tohu-bohu infernal. La princesse éclate alors d'un grand rire. L'agneau noir belle, tous sont détachés. À l'autre bout du château, le roi entend le rire. Il n'en croit pas ses oreilles. Il accourt auprès de la princesse. C'est bien elle qui rit. Elle est guérie. Le soir même, le jeune homme est invité par le roi à un dîner de fête. Comme promis, le roi lui remet une bourse remplie de pièces d'or. Le lendemain, le jeune homme s'en retourne chez lui. Depuis ce temps-là, les trois frères n'ont plus jamais manqué de rien. Sachez aussi que depuis cette histoire, dans ce pays-là, les agneaux noirs sont porteurs d'une promesse de prospérité et de joie.
Paolo le colporteur. Ce matin-là, Paolo était au col des Ailles et se dirigeait vers le grand village. Dans sa tête, il n'était pas heureux, mais il devenait vieux et le colportage commençait à être lourd dans les jambes. Et quelquefois, il se disait que de rencontrer les gens, eh bien, ça passait quelquefois du temps aussi pour lui. Il est descendu, il est arrivé au Grand Villard, et au Grand Villard, le curé lui avait promis de le loger pour sa retraite. Ils s'entendaient bien, ces deux-là. Et quand il est arrivé devant la cure, le curé était là, justement. « Ah, Paolo, quel plaisir de te voir. Ah ben, moi aussi, monsieur le curé. » Une place était libre à la cure, car les temps étaient difficiles pour l'Église catholique. Le vicaire était parti. Donc, il avait cette grande place, deux pièces. Et Paolo était sculpteur et distribuait ou vendait des petits objets qu'il sculptait dans le Pincimbro. Quel bonheur pour lui d'avoir un espace pour continuer ce travail. Le temps a passé et Paolo s'était fait accepter dans le village. C'est vrai qu'il avait sa guitare et il chantait admirablement. Et les gens l'appréciaient. Et le printemps est arrivé. Paolo avait promis de voir des clients pour sa dernière fois dans la vallée de Névache. Alors il a rempli sa malle d'objets, de quincaillerie, de livres, de vaisselle, et il est parti en direction de Névache, et passé par la Vachette, le Val des Prés. Et il est arrivé à Plampinet. À Plampinet, il y avait les époux Fort, le père et la mère Fort, qu'il aimait bien. Il avait pour elle une belle paire de ciseaux Nogent, et pour lui, un rasoir neuf, car à force de le passer sur le cuir, il était usé. Quand il est arrivé, le père Fort était dehors. « Ah, Paolo ! « Comment tu vas? C'est un plaisir de te voir. Je t'attendais. » Alors il est rentré dans la maison. La mère Fort était assise. Elle lui a dit « Paolo, tu vas bien manger avec nous, la soupe et le fromage que mon mari fait. » Eh oui. Il s'est assis, ils ont parlé parce que lui, le colporteur ne colportait pas que des objets. De Briançon et des villages qu'il avait passés, il savait des histoires. Et les gens des vallées étaient friands de cela. Il a passé la nuit dans la grange, dans le foin. Et le lendemain matin, il est parti avec sa balle sur le dos en direction de Névache. Au bout d'un quart d'heure, il s'est dit « Oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de les remercier. Je leur ai pas fait de petits cadeaux à ces braves gens. » Alors il a regardé dans sa malle et il a trouvé un miroir. Un miroir qu'il a enveloppé dans du papier journal. Et puis il est retourné. Quand il est arrivé, le père et la mère Fort étaient à nettoyer la cour. « Ben, Paolo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu reviens ?»« Eh oui, Et oui, Madame Faure est rentrée dans la maison et le père Faure lui a dit « Eh bien, viens. Écoutez, Monsieur Faure, je suis désolé, j'ai oublié de vous faire un petit cadeau. Alors, le voici. » Il a tendu au père Faure le papier journal dans lequel était le miroir. Le père Faure l'a mis dans sa poche. Paolo est reparti en direction de Nevache. Le père Faure, curieux, a regardé ce qu'il y avait dans le papier journal. Il a ouvert et il a fait « Oh, mon père !» Mais oui, les miroirs, il ne savait pas ce que c'était dans le village. Il a cru que c'était son père, il avait vieilli. Alors, il est allé cacher le miroir dans une botte de foin dans la grange, parce qu'il savait très bien que son père et sa femme ne s'entendaient pas très bien. Alors, pourquoi provoquer des discussions? Et tous les soirs, il allait dans la grange et il regardait son père. Madame Faure, elle se doutait de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tous les soirs, il va dans la grange, mais qu'est-ce qu'il peut bien y faire? Alors, profitant le lendemain d'un moment où il était parti avec ses chèvres en montagne, elle est allée dans la grange. Elle a vite trouvé le miroir, elle a regardé, elle a dit « Oh, le cochon! Il me trompe avec une femme! Mais qu'elle est vieille et qu'elle est moche! Alors, qui se la garde ?